Bonjour à tous.
Il y a tout de même une constante dans tout ce que j'ai fait, je dirais presque une obsession, le langage. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me séduit et c'est ça aussi qui souvent me traumatise.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance où toute cette semaine et pour la dernière de la saison 2015-2016, nous prenons du plaisir à penser au plaisir. Le plaisir de l'hédonisme antique avec Épicure et les Cyrénaïques, hier. Le plaisir dans la douleur avec Sacher Masoch et consorts, ce sera demain. Et le plaisir solitaire, ce sera après-demain, jeudi. Mais c'est dans le texte que nous nous puiserons aujourd'hui, en compagnie bien sûr du jouissif Roland Barthes. Et l'équipe des Nouveaux Chemins jouit des textes jour après jour. Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pergamin, Denis Ramon et bien sûr Adèle Vendrette. Avec Nicolas Berger à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Lucas Vaillant. Un soir, à moitié endormi sur une banquette de bar, j'essayais par jeu de dénombrer tous les langages qui entraient dans mon écoute. Musique, conversation, bruit de chaises, de verres, toute une stéréophonie dont une place de Tanger est le lieu exemplaire. En moi aussi, cela parlait, c'est bien connu, et cette parole dite intérieure ressemblait beaucoup au bruit de la place, à cet échelonnement de petites voix qui me venaient de l'extérieur. J'étais moi-même un lieu public, un souk. En moi passaient les mots, les menus syntagmes, les bouts de formules, et aucune phrase ne se formait, comme si c'eût été la loi de ce langage-là. Cette parole, à la fois très culturelle et très sauvage, était surtout lexicale, sporadique. Elle constituait en moi, à travers son flux apparent, un discontinu définitif. Cette non-phrase n'était pas du tout quelque chose qui n'aurait pas eu la puissance d'accéder à la phrase, qui aurait été avant la phrase. C'était ce qui est éternellement, superbement hors de la phrase. Alors virtuellement, toute la linguistique tombait, elle qui ne croit qu'à la phrase et a toujours attribué une dignité exorbitante à la syntaxe prédicative, comme forme d'une logique, d'une rationalité. Je me rappelais ce scandale scientifique, il n'existe aucune grammaire locutive. Grammaire de ce qui parle et non de ce qui s'écrit, et pour commencer, grammaire du français parlé. Nous sommes livrés à la phrase, et de là, à la phraséologie.
Quand un auteur se met en acte d'énonciation, quand il écrit, eh bien, il est déjà et en même temps, non seulement le lecteur de ce qu'il écrit, ce qui serait fort banal à dire, mais le lecteur d'une infinité d'écritures qui l'ont précédé et qui l'entourent. Si vous voulez, maintenant, et je souscris à cette sorte de déplacement de vocabulaire, au lieu de parler d'intersubjectivité, il vaudrait mieux parler d'intertextualité. Ce sont les textes qui dialoguent entre eux, et la lecture et l'écriture forment une sorte de tissu dialectique continu. Le lecteur n'est rien d'autre qu'une sorte de scripteur virtuel de l'écriture ou de toutes les écritures qui sont dans l'écriture qu'il lit. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on pourrait, dès maintenant, esquisser une sorte de théorie. Je vais employer un mot qui n'est pas bien noté en philosophie, qui est un mot ancien et assez discrédité, mais j'aurais envie de parler d'une théorie hédoniste de l'écriture, dans la mesure où la véritable dimension d'intercommunication de l'écriture, puisque nous parlions de communication, c'est au fond une dimension de plaisir et, pour parler encore plus franchement, une dimension érotique. Et on ne pourrait pas comprendre que le plaisir soit dans la lecture si on ne croyait pas, au fond, que le lecteur est quelqu'un qui fait lui aussi le texte.
Bonjour et bienvenue Éric Marty.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris Diderot, vous êtes écrivain, essayiste, membre de l'Institut Universitaire de France. On vous doit les œuvres complètes de Barthes aux éditions du Seuil, ainsi que Roland Barthes, Le métier d'écrire, qui est paru au Seuil aussi. Et bien c'est justement la voix de Roland Barthes que l'on vient d'entendre après un extrait du plaisir du texte que j'ai lu. Dans cette archive qu'on a entendu au tout début, donc du 24 octobre 1967, Barthes tente une théorie hédoniste de l'écriture et de la lecture. Il dit que l'intercommunication des textes réside dans le plaisir, dans une dimension érotique même, ce qui est à mettre en miroir donc de l'extrait que j'ai lu du plaisir du texte, cette anecdote où Barthes se retrouve dans une boîte, dans un bar à Tanger, et finalement il a cette expérience de plaisir où il se sent complètement livré à la phrase tout en étant délivré du sens des phrases. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce plaisir du texte qui se départit du sens d'une phrase ?
Ça veut dire que le mot plaisir est très compliqué en fait. Ou alors il est très simple, presque épais, et au fond il faut le compliquer pour pouvoir s'en sortir. Sinon on tombe peut-être dans une forme de satisfaction un petit peu faible, très bourgeoise finalement. C'est l'homme satisfait, l'homme comblé. Et c'est surtout pas ça auquel pense Barthes. Il y a quelque chose au fond de tellement anti-métaphysique dans cette satisfaction, au sens où, je dirais, l'expérience métaphysique la plus simple, c'est l'incomplétude, c'est le manque, c'est tout cela. Et ce que risque finalement celui qui affirme le plaisir, comme le fait Barthes, le grand risque, c'est la régression vers une figure bourgeoise et satisfaite du plaisir. D'où le caractère très oscillant, très compliqué, très très difficile au fond du discours de Barthes sur le plaisir, parce que il y a un prix à payer à défendre le plaisir, et ce prix à payer, c'est précisément, je dirais, la régression vers quelque chose de consistant, de bourgeois, de satisfait, et qui n'est pas justement satisfaisant, précisément parce que il suppose un confort, une forme d'aise qui est profondément anti-moderne. D'où le caractère très très complexe au fond du dispositif du livre, d'où les oscillations, d'où la fragmentation qui permet précisément de ne jamais s'arrêter à une forme de discours de synthèse, d'où aussi quelque chose qui au fond peut-être est stratégique chez Barthes. Cette notion de plaisir, elle ne surgit pas n'importe quand non seulement dans l'histoire intellectuelle et moderne. On pourrait revenir, si vous voulez, parce que c'est important.
Je vous en prie.
C'est important aussi de noter ça. Mais avant même de parler de cette histoire des modernes, cette notion de plaisir ne se lit pas n'importe où dans l'œuvre de Barthes. On pourrait dire qu'il y a trois phases, très grossièrement. Il y a eu quand même la science, au départ. Il y a eu le structuralisme, il y a eu la structure, il y a eu le discours de la science, qui a quand même été affirmé, et puis aussi le discours de la politique, avec l'engagement marxiste, avec un tas de choses. Il y a eu cette dimension très dogmatique, au fond, qui a été la première phase. Et je crois que, pour Barthes, il y a la nécessité, au fond, d'interrompre ou de compliquer cette phase de savoir, parce qu'on pourrait appeler, en termes pascaliens, le divertissement. Mais, justement, ce divertissement qui est lié au plaisir, mais ce divertissement, il a son sérieux. Tout comme le savoir a son sérieux propre, on pourrait dire que le divertissement a aussi son sérieux propre. Et ce sérieux propre, précisément, c'est cette complexité. Je dirais qu'au fond, pour Barthes, il n'y aurait de plaisir digne ou de divertissement digne qu'un divertissement ou un plaisir pervers qui soit justement compliqué, approfondi, reconfiguré par la perversion, par ce mot qu'il faudra bien sûr essayer de comprendre, parce que ce n'est pas évidemment une perversion au sens, je dirais, pathologique ni clinique dont parle Barthes. Mais néanmoins, il y a ces dimensions où la perversion vient compliquer le plaisir et empêche, interdit d'en faire quelque chose, je dirais, de la simple satisfaction bourgeoise, même épicurienne, parce qu'au fond, finalement, dans la tradition gréco-latine, il y a aussi quelque chose au fond de bourgeois dans cette... Je dirais que c'est un peu l'anachronisme, mais néanmoins, c'est cela. Il y a quelque chose déjà un petit peu de bourgeois ou de satisfait, une position de classe, au fond, dans l'épicurisme, que Barthes ne peut prendre que ne peut qu'en prélever des moments. On peut être, en effet, je pense pour Barthes, épicurien par moment. On peut avoir des instants d'épicurisme, mais ça ne saurait absolument à aucun moment satisfaire la pensée, le trajet du sujet moderne que continue à être Barthes.
Alors, dans le texte que j'ai lu, il y a quand même cette phrase, pour le coup, très intéressante, qui est « ce qui est éternellement, superbement, hors de la phrase ». Il y a cet hors de la phrase, vous avez beaucoup employé le terme, un lexique, on va dire, spatial, de disposition, de reconfiguration. L'idée même de perversion, c'est déjà aussi le fait de tordre dans l'espace quelque chose. Qu'est-ce qui peut être hors de la phrase, et cet hors de la phrase serait peut-être là où se situerait le plaisir, ce qui empêcherait de tomber sur un objet plein, mais justement permettrait à Barthes aussi de sauver une sorte d'oscillation du sens de ce plaisir. C'est quoi cet hors de la phrase? C'est ce qu'on ressent à la lecture, c'est les bruits qu'on entend, c'est ce qui communique tout simplement alors qu'il est dans cette boîte à Tanger, ces phrases qui traversent son corps finalement?
Alors il faut voir qu'il est hors de l'écriture à ce moment-là. Il est dans un espace de stéréophonie, comme il le dit. Il est dans l'espace des déplacements des chaises, des bruits de voix, et en plus dans un espace qui est étranger. C'est au Maroc, à Tanger, espace, je dirais, mixte, étrange, et, enfin, dont l'exotisme est un exotisme particulier, qui implique aussi des connotations culturelles très, très singulières, un érotisme aussi, qui est celui de Tanger, qui est lié à la prostitution, aux garçons, à tout un univers. Donc, le hors-phrase, au fond, il est aussi ici désiré, il est fantasmé, il est aussi peut-être écouté dans cet état de semi-sommeil de Barthes, dont le corps est lui-même dans un état de conscience, disons, affaiblie, allongé sur une banquette de bar. Et donc, il y a un état de disponibilité, une sorte d'état peut-être un petit peu d'écoute flottante, comme pourrait l'être l'analyste ou le sujet analysé, d'ailleurs, qui serait en même temps la même personne, peut-être, alors, dans ce fragment. Et donc, je crois que le hors-phrase, il est comme toujours chez Barthes, comme beaucoup d'objets chez Barthes, il est projeté, il est désiré, mais il ne peut pas être, disons, obtenu sous une forme qui serait une forme définitive ou une forme possédée. On peut désirer le hors-phrase, et on peut l'entendre, on peut le désirer, on peut le voir, on peut le prophétiser, mais le posséder, non, il est de l'ordre plutôt d'une forme d'être, d'existence, que d'un avoir quelconque. Et je crois que le hors-phrase est une sorte d'horizon, hein, et comme souvent chez Barthes, les choses sont dans l'horizon. C'est-à-dire, Barthes reprend très souvent cette image de Moïse qui ne parvient pas à atteindre l'état promise, qui meurt avant de franchir cette frontière, cette limite. Eh bien, je pense que Barthes, ici, le hors-phrase, il est aussi dans une position mosaïque par rapport à cette hors-phrase, et sûrement pas dans une sorte de, je dirais, de prétention, de prétention moderne, avant-gardiste, à décider que cette hors-phrase est obtenue.
Hors-phrase, ça renvoie aussi à ce terme d'atopie qui est beaucoup utilisé. Absolument. Dans le plaisir du texte. Donc l'atopie, c'est ce qui est sans lieu. Mmh. Et précisément, ce qui est sans lieu, c'est à la fois le plaisir, qu'on ne trouve pas finalement dans le sens des phrases, qu'on ne trouve pas comme une logique de l'entendement, nous dit Barthes, ou qui procéderait de la sensation. Et effectivement, cette atopie renvoie aussi au neutre. Oui. Qui est une notion que Barthes va beaucoup développer après dans les années 70. Il va faire un cours au Collège de France en 76-75 sur le neutre. Donc finalement, ce neutre-là, c'est le plaisir. Le plaisir est neutre, et c'est complètement paradoxal d'entendre ça.
Tout à fait. Mais alors il y a aussi, peut-être même avant même d'accéder au neutre, parce que le neutre est une notion tellement complexe aussi qu'elle est un peu partout et nulle part, il y a aussi une dimension, je dirais, poétique, dans l'existence même. Hein, il écrit « J'étais moi-même un lieu public, un souk ». Quelque chose de tout à fait rimbaldien là-dedans, sous la forme de j'étais, je voyais une mosquée à la place d'une usine, ou l'espèce d'hallucination simple dont parle Rimbaud, dans une forme d'illumination, de moment d'illumination poétique, et qui donc est évoqué, projeté, mais donc qui demeure une sorte d'image comme ça. Et en effet, cette dimension de compliquer le plaisir, de ne pas en faire justement quelque chose qui relève d'une satisfaction simple, ouvre en effet le plaisir à des éléments d'hétérogénéité très profonds. Alors, vous avez cité le neutre, mais on pourrait aussi parler de la peur qui apparaît dès l'épigraphe, de manière très surprenante, dès l'épigraphe du plaisir du texte. Comment la peur pourrait être l'épigraphe d'un livre sur le plaisir? Il y a aussi la question du lien entre plaisir et jouissance, qui sont tantôt opposés, tantôt qui se confondent. Il y a tout un tas de stratégies par où, justement, il s'agit de reconfigurer le plaisir dans une dimension qui lui pose des opacités. Et sûrement pas quelque chose de l'ordre de la convivialité, par exemple. Il y a aucune trace. Le plaisir est souvent vécu comme une forme de socialité, de rapport à l'autre, de communication, de circulation entre les personnes, donc de convivialité. Tout cela est affaibli, non pas supprimé, parce que Barthes ne renonce à rien, au fond. Et c'est que Barthes est dans la position, justement, de ne pas choisir, de tout maintenir, mais à des degrés très différents, et donc à limiter, à diminuer, à augmenter tel ou tel aspect de sa pensée sur le plaisir.
Après quelques semaines d'heureux travail, tout s'était gâté. Claude ne pouvait se sortir de sa grande figure de femme. C'est pourquoi il tuait son modèle de fatigue, s'acharnant pendant des journées, puis lâchant tout pour un mois. À 10 reprises, la figure fut commencée, abandonnée, refaite complètement. Une année, 2 années s'écoulèrent sans que le tableau aboutît, presque terminé parfois, et le lendemain gratté, entièrement à reprendre. Cet effort de création dans l'œuvre d'art, cet effort de sang et de larmes dont il agonisait, pour créer de la chair, souffler de la vie. Toujours en bataille avec le réel, et toujours vaincu, la lutte contre l'ange. Il se brisait à cette besogne impossible de faire tenir toute la nature sur une toile, épuisé à la longue dans les perpétuelles douleurs qui tendaient ses muscles, sans qu'il pût jamais accoucher de son génie. Ce dont les autres se satisfassent, l'à peu près du rendu, les tricheries nécessaires, le tracassaient de remords, l'indignaient comme une faiblesse lâche. Et il recommençait, et il gâtait le bien pour le mieux, trouvant que ça ne parlait pas. Mécontent de ses bonnes femmes, ainsi que le disaient plaisamment les camarades, tant qu'elles ne descendaient pas coucher avec lui. Que lui manquait-il donc pour les créer vivantes? Un rien, sans doute. Il était un peu en deçà, un peu au-delà, peut-être. Un jour, le mot de « génie incomplet », entendu derrière son dos, l'avait flatté et épouvanté. Oui, ce devait être cela. Le saut trop court ou trop long, le déséquilibrement des nerfs dont il souffrait, le détraquement héréditaire qui, pour quelques grammes de substance en plus ou en moins, au lieu de faire un grand homme, allait faire un fou.
Ce que je goûte dans un récit, ce n'est pas directement son contenu, ni même sa structure, mais plutôt les éraflures que j'impose à la belle enveloppe. Je cours, je saute, je lève la tête, je replonge. Rien à voir avec la profonde déchirure que le texte de jouissance imprime au langage lui-même, et non à la simple temporalité de sa lecture. D'où deux régimes de lecture. L'une va droit aux articulations de l'anecdote, elle considère l'étendue du texte, ignore les jeux de langage. L'autre lecture ne passe rien. Elle pèse, colle au texte, elle lit, si l'on peut dire, avec application et emportement, saisit en chaque point du texte la synthèse qui coupe les langages. Or, paradoxalement, tant l'opinion croit qu'il suffit d'aller vite pour ne pas s'ennuyer, cette seconde lecture, appliquée au sens propre, est celle qui convient au texte moderne, au texte limite. Lisez lentement, lisez tout d'un roman de Zola, le livre vous tombera des mains. Lisez vite, par bribes, un texte moderne. Ce texte devient opaque, fort clos à votre plaisir. Vous voulez qu'il arrive quelque chose et il n'arrive rien. Car ce qui arrive au langage n'arrive pas au discours. Ce qui arrive, ce qui s'en va, la faille des deux bords, l'interstice de la jouissance, se produit dans le volume des langages, dans l'énonciation, non dans la suite des énoncés. Ne pas dévorer, ne pas avaler, mais brouter, tondre avec minutie, retrouver, pour lire ces auteurs d'aujourd'hui, le loisir des anciennes lectures, être des lecteurs aristocratiques. Éric Marty, la réévaluation du plaisir auquel procède Barthes dans Le plaisir du texte s'ancre aussi dans une réévaluation d'un sens trivial du mot plaisir dans le texte que je viens de lire, extrait bien sûr du plaisir du texte. Il évoque ainsi le fait de goûter un texte. Après la vue des corps, après l'écoute des corps dans cette boîte à Tanger, on est ici dans le régime, dans le sens du goût, et puis dans un régime de lecture qui implique deux régimes de lecture. Un régime, on va dire, rapide, par bribes, c'est celui que l'on doit imposer à Zola, dont on a entendu un extrait interprété par notre comédien Vincent Schmitt, un extrait de l'œuvre qui date de 1886. Alors, on l'a entendu interpréter lentement, mais finalement, pour Barthes, ça n'est pas le bon régime de lecture adapté à une œuvre de Zola. En revanche, ce qui se lit de manière appliquée, c'est un texte moderne. Alors, comment comprendre cette idée d'une méthode, d'une recette pour bien lire et pour avoir du plaisir dans la lecture, alors même qu'on avait l'impression qu'il suffisait de se livrer au texte pour en retirer du plaisir?
Oui, alors je crois que là, nous sommes dans la dimension pédagogique, je dirais, du livre de Barthes. Donc, de bien aussi supposer que le corps n'est pas un, que la lecture n'est pas une, et que la littérature aussi n'est pas une. Et que peut-être, d'ailleurs, le texte de jouissance dont parle Barthes échappe peut-être à la littérature, au sens d'une sorte de consommation courante, hein, qui relève précisément peut-être du sens le plus empirique ou le plus ordinaire,
peut-être.
Le plus ordinaire du mot plaisir. Donc goûter, en effet, goûter, c'est ce caractère assez superficiel finalement ici que donne Barthes au mot plaisir du texte, plaisir de Zola, plaisir de, y compris même de Julien Green. Barthes ironiquement va jusqu'à citer Julien Green comme l'exemple de texte de plaisir, mais en réalité, c'est aussi une manière, si vous voulez, d'avancer notion de jouissance et de l'avancer paradoxalement, puisque la jouissance n'est pas du tout le pulsionnel, ni l'emportement, ni le délire. C'est au contraire, dit Barthes, une lecture appliquée. Et ça, c'est le grand paradoxe. C'est là où on voit combien Barthes complique constamment les choses.
Alors, est-ce qu'il complique pour compliquer ou est-ce que ça dit quelque chose?
Non, il veut compliquer, je pense, précisément parce que il voit très bien les pièges qu'il s'est tendu finalement à lui-même, mais pour des raisons très, très, très intentionnelles dont je parlais tout à l'heure. C'est pour éviter le piège, justement, de ce dualisme plaisir-jouissance, donc où d'un côté il y aurait en effet le plaisir comme une sorte d'ordinaire du quotidien où on goûte,
de confort,
etc., de confort, et de l'autre une jouissance qui serait l'emportement. Non, dit Barthes, dans la jouissance même, c'est aussi une méthode qui s'applique, et donc une application, comme le dit Barthes, et on voit le mot appliquer, qui est un mot très scolaire et très volontairement plat, pour renvoyer au texte de jouissance. Il dit, non pas ne pas dévorer, ne pas avaler, ce qui précisément renvoie en principe à la jouissance, aux dimensions pulsionnelles d'une dévoration sadique ou d'une avaler comme une forme de gloutonnerie de jouissance, mais brouter, tondre, avec minutie, retrouver, etc. Et dernière provocation, au fond, c'est l'aristocratie. C'est-à-dire que le texte moderne, donc le texte d'avant-garde, le texte qui en principe déchiquette toutes les valeurs et tous les ordres, doit être consommé sur un mode que Barthes souligne d'ailleurs, le mot est en italique, être des lecteurs aristocratiques, donc qui pointe là encore beaucoup plus un jeu de paradoxe permanent plutôt qu'un affichage définitif d'une opposition plaisir-jouissance, puisque d'ailleurs, deux pages après, eh bien, Barthes suppose à un lecteur un sujet anachronique qui tient les deux textes dans son champ et dans sa main, les rênes du plaisir et de la jouissance.
Donc, on va en reparler, ça, de comment on peut tenir les rênes du plaisir et de la jouissance.
Mais dès le départ, il a rendu ça possible. Comment? En faisant la jouissance quelque chose qui n'est pas justement dans le stéréotype de la perte, mais au contraire, la jouissance est aussi peut-être une jouissance de type obsessionnel, où je ne saute pas une syllabe, où je parcours le texte dans son intégralité. Et au fond, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est comment Barthes renvoie le moderne, l'ultra-moderne, le contemporain, non pas, je dirais, une forme d'anarchie individualiste, mais au contraire, à de la méthode. Et au fond, pour Barthes, je pense, consommer l'œuvre d'art contemporaine, le texte, comme je pense c'est vrai pour les arts plastiques, suppose un regard extraordinairement assidu et méthodique.
D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, Barthes, depuis le début du plaisir du texte, à chaque fois se départit du sens de la phrase, de la structure de la phrase. En cela, il n'est plus du tout sémiologue, il n'est plus du tout dans le signe, dans la manière dont les signes vont communiquer entre eux et former une structure. Il est plutôt dans des procès de structuration qui va être dans un dialogue entre le lecteur qui fait tout autant le texte que l'écrivain. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question si est-ce que le lecteur construit toujours le texte d'une certaine manière ? Est-ce que construire le texte, c'est ça qui produit du plaisir ou de la jouissance ? Est-ce que, par exemple, un texte, pour être bien lu, doit être lu de manière appliquée ? Un Zola doit être lu de manière rapide ? En fait, quelle est cette méthode que propose Barthes ?
Alors d'abord, c'est aussi la création d'un concept ou d'un sujet qui est le sujet lecteur qu'opère Barthes. C'est-à-dire que il y a un texte très célèbre de lui qui s'appelle « La mort de l'auteur », qui est paru peu de temps avant la parution du texte, où cette mort de l'auteur, sa récompense, c'est la naissance du lecteur. C'est-à-dire donc la mort de l'auteur a comme effet, non pas simplement une sorte de disparition de la figure de l'auteur, qui d'ailleurs va réapparaître en fait par la suite sous une forme beaucoup plus compliquée, sous la forme des biographèmes, sous la forme de l'écrivain qui réapparaît dans son texte. Mais en attendant, avant cette réapparition, ce que Barthes produit, c'est ce sujet lecteur, qui est un sujet lui aussi très ouvert, qui n'est pas justement dans une opposition à l'auteur, mais qui est lui-même auteur de ce qu'il lit. Et c'est avant tout ça, je verrai la réponse à votre question.
Et qui ne produit pas pour autant du sens aussi, c'est ça. Le sens du texte ne s'imprime pas sur lui, il n'a pas à rendre compréhensible ou à essayer de comprendre un texte qui est sous ses yeux, un sens, et qui n'a pas non plus à imprimer un sens, une singularité au texte. Voilà. Il y a une ouverture totale du texte qui empêche de le définir.
Absolument. Donc d'où ces passages où Barthes lit le texte de manière, je dirais, complètement, saugrenue. Par exemple, un texte de Leibniz qu'il cite, où ce qui va l'intéresser, c'est au fond, non pas le propos de Leibniz, mais ça va être l'apparition d'un mot qui est comme le mot « orodéictique », par exemple. C'est pas dans un long fragment, Barthes explique, au fond, voilà, ce qui l'intéresse, c'est des mots qui brillent, des signifiants qui viennent érotiser le texte. Et alors, dans le texte de Leibniz, qui est tiré des nouveaux essais sur l'entendement humain, le terme qui va, ce qui va accrocher l'œil du lecteur qui est à ce moment-là Barthes, c'est justement ces deux mots, orodéictique et fractive, qui viennent introduire dans... parce qu'en fait, Leibniz parle des montres et puis des moulins, et il dit, voilà, il parle, des obscurantistes qui pensent que la montre aurait en elle-même une volonté d'heure et le moulin une capacité à moudre. Non. Et donc, il emploie les mots orodéictique et fractive. Et ce qui intéresse Barthes, c'est ces deux mots qui viennent par leur rareté, par leur effet signifiant, priser précisément une lecture qui serait une lecture, je dirais, théorique de Leibniz. Et il y a aussi quelque chose, évidemment, une démarche là-dedans ironique par rapport à la philosophie elle-même, en introduisant dans la philosophie le plaisir du texte, alors que la philosophie est censée justement n'être qu'un discours.
Je reste enfermé, j'ai les chaussons dans les doigts de pied. Je devrais sortir voir des poteaux et manger des paupiètes de veau, et pas rester à lire des livres comme un salaud. Les livres, moi, ça me colle au fauteuil, me fait oublier le réel et l'irréel et le jour des poubelles. Le truc te prend, te lâche plus, la journée passe et puis voilà, tu n'as rien fait, enfin t'as lu, c'est pas rien fait. Ça se ramène à la maison, ça s'entreprend sur le paillasson, tout habillé. C'est aussi con, sentant qu'un amour dont on a très très envie, et qu'on met doucement, poliment dans son lit. ça s'abandonne, ça tombe des mains, on dit je recommencerai demain. Et puis ça croupit sous un lit ou dans un coin.
Il est 10h31, vous êtes sur France Culture, vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance et pour cette dernière semaine de la saison, c'est sur le plaisir que nous nous penchons et aujourd'hui sur le plaisir du texte de Roland Barthes en compagnie d'Éric Marty, professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris Diderot, écrivain, essayiste et membre de l'Institut Universitaire de France, auteur notamment de Roland Barthes, Le métier d'écrire paru au Seuil et à qui l'on doit aussi les œuvres complètes de Roland Barthes au Seuil et plus récemment sur un tout autre sujet, sur Shoah de Klaus Lanzmann qui est paru aux éditions Manutius en avril.
La jouissance de l'écriture et donc la jouissance de lecture, nous ne savons pas du tout quelle elle est, nous ne savons pas bien en faire la théorie. Le plaisir, disons en caricaturant, est de l'ordre du confort. C'est effectivement le glissement très euphorique du texte qu'on lit sur votre propre peau, en général, surtout si on est bien installé pour lire. C'est le plaisir du bon roman ou le plaisir du beau texte. Ça glisse le long de votre propre image, n'est-ce pas, dans une sorte d'aise et d'euphorie. Et dans une sorte de sentiment, justement, de reconnaissance, d'identification à ce qu'on lit. D'identification au contenu, à la représentation qui est dans ce qu'on lit. Tandis que la jouissance, bien entendu, c'est beaucoup plus énigmatique, ça n'est pas mystérieux, mais c'est énigmatique, c'est effectivement un arrachement, ça peut donc prendre quelquefois d'ailleurs la forme de l'ennui, il peut y avoir des ennuis violents, il peut y avoir des rejets violents devant un texte qui sont finalement, sans qu'on le sache, des actes de jouissance. Le sens même de l'écriture, ça serait de tenir une fois de plus dans la main les deux rênes en même temps, n'est-ce pas ? Les rênes du plaisir et les rênes de la jouissance.
La jouissance n'est-elle qu'un plaisir brutal, immédiat, sans médiation ? De la réponse, oui ou non, dépend la manière dont nous raconterons l'histoire de notre modernité. Car si je dis qu'entre le plaisir et la jouissance, il n'y a qu'une différence de degré, je dis aussi que l'histoire est pacifiée. Le texte de jouissance n'est que le développement logique, organique, historique du texte de plaisir. L'avant-garde n'est jamais que la forme progressive, émancipée de la culture passée. Aujourd'hui sort d'hier. Robe Grillet est déjà dans Flaubert, Solers dans Rabelais, tout Nicolas de Staël dans 2 cm² de Cézanne. Mais si je crois au contraire que le plaisir et la jouissance sont des forces parallèles, qu'elles ne peuvent se rencontrer et qu'entre elles, il y a plus qu'un combat, une incommunication, alors il me faut bien penser que l'histoire, notre histoire, n'est pas paisible, ni même peut-être intelligente. Que le texte de jouissance y surgit toujours à la façon d'un scandale, d'un boitement, qu'il est toujours la trace d'une coupure, d'une affirmation et non d'un épanouissement, et que le sujet de cette histoire, ce sujet historique que je suis parmi d'autres, loin de pouvoir s'apaiser en menant de front le goût des œuvres passées et le soutien des œuvres modernes dans un beau mouvement dialectique de synthèse, n'est jamais qu'une contradiction vivante, un sujet clivé qui jouit à la fois à travers le texte de la consistance de son moi et de sa chute.
Éric Marty, on a entendu tour à tour une archive qui date du 2 novembre 1975. C'était Roland Barthes dans l'émission Poésie ininterrompue, dans laquelle il fait une distinction entre ce qui relève du confort, de l'aise, de l'euphorie, de la reconnaissance et de l'identification à l'œuvre dans le plaisir, et de l'autre, l'arrachement, la violence de la jouissance. Alors c'est une distinction que vous avez déjà évoquée. Le texte de jouissance est autant présent, peut-être même plus que celui de plaisir dans le plaisir du texte, dont on vient d'entendre un autre extrait interprété par notre comédien Vincent Schmitt. Alors là, c'est plus qu'une distinction entre jouissance et plaisir, c'est carrément un combat, une incommunication qu'établit Roland Barthes entre ces deux forces parallèles. Alors, l'idée du plaisir confortable et l'idée d'une jouissance violente, c'est un petit peu réducteur comme opposition. Est-ce qu'il y aurait un moyen, selon Barthes, de tenir ensemble plaisir et jouissance?
Alors il y a plusieurs moyens de nommer ce troisième terme. Le moyen qu'emploie Barthes, c'est cette notion de pervers, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs lorsqu'il évoque ce sujet anachronique qui tient donc d'un côté dans une main les rênes du plaisir et de l'autre les rênes de la jouissance. Il jouit, ce sujet d'Ibart, de la consistance de son moi, c'est son plaisir, et recherche sa perte, c'est sa jouissance. C'est un sujet deux fois clivé, deux fois pervers, ajoute Barthes. Donc, au fond, cette catégorie de la perversion, c'est une sorte d'usage très méthodique du mot pervers. C'est-à-dire que perversion est toujours un moyen de sortir, de briser les voies que la société ou que l'idéologie nous propose en introduisant cette utopie d'un sujet qui échapperait à tout cela par une transgression permanente des limites. Et ce sujet pervers, donc, que Barthes imagine sans cesse, qui est un sujet qui n'est pas précisément pris dans le, je dirais, dans le stéréotype de la perversion, parce que la perversion est aussi, a aussi une dimension donc de stéréotype, mais qui est un sujet plutôt dont Barthes tente de construire une forme d'éthos, une forme d'esthétique, un art de vivre, une sorte de rapport au sens, de rapport au langage. Ce sujet pervers, donc, c'est un sujet qui est constamment derrière
la loi, en
derrière
fait.
La loi, derrière.
Qui va contourner la loi. Voilà. C'est bien voilà. Le sens aussi du pervers, en tout cas en psychanalyse. C'est celui qui va tordre la loi ou qui va essayer de la renverser ou en tout cas de la garder telle quelle, mais en fait de la renverser néanmoins. C'est-à-dire qu'il ne veut pas abolir la loi, il veut la contourner.
Mais justement parce que il est pervers, Barthes n'oppose pas directement le pervers à la loi, ce qui serait tombé dans le régime de la loi. Ça serait finalement, si le pervers n'était qu'un sujet qui s'opposait, qui transgressait la loi, ça serait précisément le sujet psychanalytique codifié, stéréotypé, qui est au fond dans des comportements mécaniques de réponse à la loi. Ce que Barthes tente de construire, c'est précisément une perversion qui échapperait au régime du discours psychanalytique qui le codifie et qui le place, qui le situe à un endroit, je dirais, beaucoup trop clos pour Barthes. Donc le pervers n'est pas un sujet qui se définit contre la loi, mais plutôt un sujet qui joue avec la loi, qui joue avec elle comme un enfant peut jouer avec son corps, comme justement un écrivain joue avec le langage. Et c'est ce rapport justement peut-être de jeu ou de jeu que Barthes propose et construit par ce sujet pervers, sûrement pas dans la crispation transgressive telle qu'elle peut être élaborée par la psychanalyse.
Alors qui joue avec quoi en fait dans la lecture du texte? Est-ce que c'est justement le lecteur qui va jouer avec le sens du texte? Est-ce que c'est l'écrivain qui lui-même a joué avec le sens des mots? Qui est la loi en fait dans le texte? Quelles sont ces institutions qui planent, ces lois avec lesquelles l'écrivain ou le lecteur va jouer? Vont jouer.
Alors en fait, la loi, elle est nommée par Barthes de manière double ou triple. C'est pas seulement la loi du phallus de Lacanienne, c'est aussi la loi politique marxiste, c'est aussi la loi de la science. Au fond, c'est le sentiment que Barthes a que la modernité, précisément, au lieu d'avoir, je dirais, contribué à déplacer les choses, à déprécier au fond les fausses valeurs, eh bien, peu à peu, n'a fait que forger un nouveau discours de la loi. Au fond, ce qui frappe Barthes, je pense, au milieu des années 70, c'est que les modernes, dans leur opération, je dirais, de subversion, de déplacement, de critique du monde, eh bien, ont substitué précisément à l'insuffisance, je dirais, de l'idéologie, des lois absolument extraordinairement fortes, puissantes, très intelligentes, très Marx, Lacan, Marx, Freud, etc., la linguistique. Et que cette substitution n'est pas forcément heureuse.
Oui, d'où l'idée d'ouverture totale, de pureté totale du texte, voilà. En fait.
D'où l'idée seulement de plaisir. Le mot plaisir est une sorte de petite bombe piégeante, comme on l'a vu, mais en tout cas qui est là pour, au fond, désarmer ce qu'il peut y avoir au fond de policiers, je dirais aux yeux de Barthes, en tout cas, de coercitif dans, non pas dans la société, mais dans la modernité même. C'est-à-dire que Barthes, en écrivant le plaisir du texte, ne s'adresse pas au monde, il s'adresse aussi au moderne. Il s'adresse aussi, c'est aussi un discours qui est intérieur à la modernité et qui vise justement à déplacer les choses de l'intérieur, tant au fond, la loi n'est pas seulement une loi qui serait externe, transcendante, auquel ferait s'opposer, mais la loi est ce que la modernité elle-même a produite. Et donc, en ce sens, c'est une opération interne au moderne que Barthes opère.
À peine a-t-on dit un mot quelque part du plaisir du texte que deux gendarmes sont prêts à vous tomber dessus, le gendarme politique et le gendarme psychanalytique. Futilité et ou culpabilité, le plaisir est ou oisif ou vain, c'est une idée de classe ou une illusion. Vieille, très vieille tradition, l'hédonisme a été refoulé par presque toutes les philosophies. On ne trouve la revendication hédoniste que chez des marginaux, Sade, Fourier. Pour Nietzsche lui-même, l'hédonisme est un pessimisme. Le plaisir est sans cesse déçu, réduit, dégonflé au profit de valeurs fortes, nobles, la vérité, la mort, le progrès, la lutte, la joie, etc. Son rival victorieux, c'est le désir. On nous parle sans cesse du désir, jamais du plaisir. Le désir aurait une dignité épistémique, le plaisir non. On dirait que la société, la nôtre, refuse et finit par ignorer tellement la jouissance qu'elle ne peut produire que des épistémologies de la loi et de sa contestation, jamais de son absence, ou mieux encore, de sa nullité. Curieux cette permanence philosophique du désir, en tant qu'il n'est jamais satisfait. Ce mot ne dénoterait-il pas une idée de classe ? Présomption de preuve assez grossière et cependant notable, le populaire ne connaît pas le désir, rien que des plaisirs.
On pourrait imaginer une typologie des plaisirs de lecture ou des lecteurs de plaisir. Elle ne serait pas sociologique car le plaisir n'est pas un attribut ni du produit ni de la production. Elle ne pourrait être que psychanalytique, engageant le rapport de la névrose lectrice à la forme hallucinée du texte. Le fétichiste s'accorderait au texte découpé, au morcellement des citations, des formules, des frappes, au plaisir du mot. L'obsessionnel aurait la volupté de la lettre, des langages seconds, des crochets, des métalangages. Cette classe réunirait d'ailleurs tous les logophiles, linguistes, sémioticiens, philologues, tous ceux pour qui le langage revient. Le paranoïaque consommerait ou produirait des textes retors, des histoires développées comme des raisonnements, des constructions posées comme des jeux, des contraintes secrètes. Quant à l'hystérique, si contraire à l'obsessionnel, il serait celui qui prend le texte pour de l'argent comptant, qui entre dans la comédie sans fond, sans vérité du langage, qui n'est plus le sujet d'aucun regard critique et se jette à travers le texte, ce qui est tout autre chose que de s'y projeter. Éric Marty, on vient d'entendre, alors d'abord interprété par Vincent Schmitt, un extrait encore du plaisir du texte, puis j'en ai lu juste après un autre extrait. Alors c'est très difficile de situer où se situent ces deux textes puisqu'il n'y a pas de paragraphe, c'est des fragments. On peut juste simplement dire qu'ils se situent vers la fin du plaisir du texte. Dans le premier texte, on entend donc Barthes qui dit que dès qu'on dit le mot plaisir, cette petite bombe dont vous parliez, Éric Marty, il y a tout de suite deux gendarmes, le gendarme politique et le gendarme psychanalytique qui apparaissent, mais on peut tout de suite dire quand même que le plaisir du texte a cette dimension précisément politique par l'usage de la loi qui est faite du plaisir du texte face à la loi, mais aussi il y a une dimension psychanalytique car apparaissent à plusieurs reprises des termes très psychanalytiques, la forclusion, la névrose, le fétichisme, l'Œdipe, le texte est un Œdipe, la mère et son pénis avec cette castration ratée où le texte aurait cette sorte de symbolisme du texte. Comment Barthes en fait arrive à jouer de l'ironie à ce point-là, à tout à la fois en condamnant politique et psychanalyse et en même temps en s'en servant pour analyser le plaisir.
Je crois que c'est présent un moment, un tournant aussi, dans un tournant historique, un tournant contextuel qu'il faut peut-être mettre derrière cela pour le comprendre. Au fond, peut-être que ici, Barthes amorce quelque chose de, comme un déplacement général, mais qui d'ailleurs est presque concomitant. Qu'on pense à l'anti-Oedipe de Deleuze, Guattari, qui est paru en 72. Qu'on pense à l'espèce d'intérêt que Foucault va développer pour le libéralisme, le néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement, par exemple, de Foucault? Eh bien, c'est qu'au fond, peut-être, la société fondée sur la loi, il faut mieux peut-être explorer la société fondée sur les règles et non plus sur la loi. Il y a un déplacement très fort, là, de la loi aux règles ou aux normes, qui est important. Et d'ailleurs, le mot plaisir, Foucault va l'employer quelques années après Barthes, avec l'usage des plaisirs. Et la question de la subjectivité, qui est au cœur du plaisir du texte, va être aussi, évidemment, dans le souci de soi de Foucault, un élément très fort. Mais alors que Foucault, lui, va appliquer cela précisément aux sociétés antiques, gréco-latines, Barthes va en faire quelque chose qui relève de sa propre écriture. Donc, il y a tout de même une différence. Mais néanmoins, tout cela quand même est lié à un contexte global où il y a une sorte de mouvement, je dirais, de sensation démoderne qu'il faut desserrer en quelque sorte l'espèce de classicisme qui est en train de s'installer dans la modernité. Parce que la modernité est devenue un classicisme dont la loi est au fond le cœur.
Et que le texte peut renverser.
Voilà. Et en ce sens, il faut toujours être plus moderne que la modernité elle-même ne peut le prescrire. Et c'est cette fuite en avant, d'ailleurs, dont parle Barthes pour définir ce qu'est le nouveau et ce qu'est la modernité, cette fuite en avant qui ne s'arrête jamais et qui suppose constamment de déplacer les choses. Donc ça, je crois qu'on ne peut pas le saisir simplement dans le livre lui-même. Il faut quand même associer à ce livre, d'autres positions qui entourent la position de Barthes. Et juste un dernier petit point. Dans le texte qui a été cité, donc on a le lecteur fétichiste, le lecteur obsessionnel, le lecteur paranoïaque et le lecteur
historique. Très drôle d'ailleurs cette typologie.
Voilà, qui est une typologie de lacanienne au fond, qui reprend parce que les définitions qu'il donne à chaque fois des quatre figures sont vraiment reprises de Lacan. Eh bien, Barthes, au fond, ne choisit pas. Il veut être tout à la fois. Il veut être à la fois fétichiste, obsessionnel, paranoïaque, hystérique. Et c'est en ça que le scandale du plaisir. C'est précisément que la typologie, elle est au fond très forte et en même temps, elle est impossible. Et elle est en tout cas, les paradigmes d'opposition sont neutralisés. Et c'est là que le neutre intervient comme force de neutralisation, force de suspension. Et c'est un mot très important parce que ce mot suspension, c'est un mot qui montre que pour Barthes, le plaisir n'est pas simplement de l'ordre justement du délassement ou de la jouissance ou de n'importe quelle autre dimension. C'est une méthode. Le plaisir est une méthode et il y a un fragment pour cela, peut-être c'est le même auquel on pense.
Ah bah, ne jamais assez dire la force de suspension du plaisir, c'est une véritable époque, un arrêt qui fige au loin toutes les valeurs admises par soi-même. Le plaisir est un neutre, la forme la plus perverse du démoniaque.
Voilà. Alors pour moi, c'est le fragment le plus important.
Qui se trouve tout à la fin, pratiquement.
Tout à la fin, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, le mot plaisir est pour la première fois défini sur un mode, de manière très précise, comme force de suspension. Et non pas donc comme contentement. Ce n'est pas du tout une sorte de
passivité, de relâchement.
Ou de confort, mais c'est une forme de suspension, donc un travail, une sorte de travail. Ce que Barthes nomme d'un mot grec, qui est le mot époké, qui est un mot qui vient des sceptiques, qui a été beaucoup repris par la phénoménologie, et à savoir comme mise entre parenthèses.
Mise en doute aussi, on le trouve un petit peu chez Descartes.
Voilà, exactement.
Enfin, complètement
tout à fait,
même.
Tout à fait. Mais ici, donc, l'époké, c'est la suspension. C'est un premier stade de suspension qu'on pourrait dire de type phénoménologique. Au fond, quand je suis dans le plaisir du texte, je suspends les valeurs du monde. Elles sont invalidées. Je me refuse à valider les valeurs mondaines du politique, du social, de la science, ou de la famille, ou de la loi, ou du désir. Non, je suis dans cet état de suspension, d'époque, par où je peux avoir accès à l'essence du plaisir, à sa dimension, dans sa phénoménalité même. Et si je peux me permettre d'ajouter qu'il y a un deuxième degré d'époque, qui est l'époque perverse. C'est-à-dire qu'il y a une époque qu'on pourrait dire d'ordre, je dirais, moral, qui est l'époque du plaisir, par où je suspends les valeurs du monde, mais il y a une deuxième époque, qui est l'époque perverse, par où je suspends quelque chose de plus profond. Vous savez que pour Freud, évidemment, le fétichiste, le pervers, c'est celui qui suspend la réalité en fantasmant l'idée que la mère possède un pénis. Alors, à la fois, il y croit et en même temps, il n'y croit pas.
Il sait que ça n'est pas vrai, mais il y croit.
C'est ça, absolument.
Comme n'importe quel lecteur croit à ce qu'il lit.
Et il est dans cette position d'époqué. Mais ce n'est pas la même époqué que la première, parce que c'est une époqué beaucoup plus brutale, beaucoup plus rusée, beaucoup plus violente, beaucoup plus tordue, elle aussi, puisque quand même le sujet maintient malgré tout une sorte de croyance ou de créance dans la principe de réalité tout en le modifiant. Et c'est là, dans ce second niveau, dans ce qu'on pourrait appeler la suspension ou l'époque perverse, que le neutre peut surgir. Et neutre que Barthes définit de manière tout à fait quand même incroyable, comme, dit-il, la forme la plus perverse du démoniaque. On se rappelle que pour Goethe, hein, le démoniaque, c'est celui qui dit non. Je suis dans le Faust, hein, c'est l'esprit qui toujours nie. Or non, pour Barthes, le démoniaque n'est pas celui qui nie, c'est celui qui neutralise, qui suspend. Et en ce sens, c'est un déplacement, là aussi, et la perversion et du démoniaque et du neutre qui est considérable.
Merci beaucoup Éric Marty d'être venu nous parler du plaisir du texte chez Barthes. Alors je rappelle que l'on peut lire de vous Roland Barthes, Le métier d'écrire, c'est paru au Seuil, mais aussi Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux, c'est au Seuil. Beaucoup plus récemment, c'est paru en avril dernier, Sur Shoah de Klaus Lanzmann, c'est aux éditions Manutius. Et ainsi aussi que deux romans, La fille et Le cœur de la jeune chinoise, tous les deux au Seuil. Et puis bien sûr, chers auditeurs, vous trouverez les œuvres complètes de Roland Barthes, dont Le plaisir du texte aux éditions du Seuil encore, dans une édition établie par vos soins, Éric Marty. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour la suite de cette semaine consacrée au plaisir. Et demain, c'est le plaisir dans la douleur que nous évoquerons à partir de Sacheur Masoch avec Elisabeth Roudinesco, psychanalyste, historienne, directrice de recherche à l'Université de Paris 7, auteure notamment de La part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers. Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, la télécharger, la podcaster. Et puis vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.